Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
Nous ouvrons, une dernière fois en tout cas pour cette série, 1 Samuel chapitre 17, et nous lisons les versets 38 à 40. 1 Samuel 17, versets 38 à 40. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Nous avons évoqué jusqu'à présent des grands principes. C'est-à-dire que sur la terre tout entière, une approche de l'ensemble des Écritures sur le thème de la foi doit aboutir, je le crois, à l'unisson, à reconnaître en ce qui concerne la foi ces principes évoqués jusqu'à présent. Et c'est seulement sur cette base que nous pouvons aborder ce que nous allons faire maintenant, trop rapidement d'ailleurs, c'est-à-dire 5 caractéristiques de l'action de la foi. Nous le verrons, les principes sont immuables. Ils ne doivent pas être touchés, ils sont applicables, c'est comme le squelette, si vous voulez. Maintenant, on va mettre de la chair. Et nous sommes tous différents les uns des autres. Les squelettes se ressemblent dans pas mal de détails, mais vous savez que ce qui fait la différence entre les êtres, c'est tout ce qui les recouvre, qui nous distingue les uns des autres. Il en est ainsi de l'action de la foi. Nous allons aller vite. Je vous donnerai essentiellement des lignes de réflexion parce que nous aurions pu faire tout notre week-end simplement sur ces 5 doigts de la main de la foi, donc de l'action de la foi. Alors pour quand même essayer de faire que cette série forme un tout, je m'arrêterai peut-être plus particulièrement sur certaines pensées, mais nous nous fixons comme objectif de au moins repartir d'ici en ayant une vision suffisamment claire et nette de ces 5 caractéristiques de l'action de la foi. Première caractéristique, nous allons les tirer pour la plupart de ces versets 38 à 40. J'aimerais peut-être au départ, d'ailleurs, vous encourager à ne jamais considérer qu'il y a dans les Écritures des choses qui sont suffisamment secondaires pour qu'on ne s'y arrête pas. Souvent, Dieu nous parle par des passages des Écritures apparemment sans intérêt particulier. Et peut-être avez-vous lu des dizaines et des dizaines de fois cette histoire d'un Samuel 17, comme nous le faisons pour quantité d'histoires de la Bible, en disant, bon, ben, ça c'est un événement, c'est arrivé à telle époque, bon, ben, c'est fini, c'est du passé, oublions-le. Or, toute l'écriture est inspirée de Dieu, et il n'y a pas, si vous voulez, de message gratuit. Dieu ne parle jamais pour parler. Et il n'a pas communiqué pour que la Bible ait 1200 et quelques pages dans nos versions. Il ne cherche pas simplement à remplir. Dieu veut nous parler parfois par des détails qui peuvent être à la base de bouleversements dans nos vies personnelles. Et ça, je le précise au passage concernant notre approche personnelle des Écritures. Ne pensez pas qu'il y ait dans l'Écriture un passage qui soit banal. Dieu a quelque chose à nous dire, souvent par des détours auxquels nous n'avons jamais pensé auparavant. Et c'était ainsi qu'un jour, d'une manière toute particulière, Dieu m'a confronté avec ces versets 38 à 40 pour me donner cet enseignement. Premier doigt de cette main de la foi, notre manière d'agir dans l'exercice de notre foi, dans notre vie de tous les jours, notre mode d'action, notre moyen d'action de la foi, nous sommes dans l'action de la foi, dans l'obéissance de la foi, dans la pratique de la foi, dans les œuvres de la foi, n'est-ce pas, c'est ce que nous avons déjà dit ce matin, bien ce moyen d'action doit être personnel. Le moyen d'action de la foi doit être personnel. Vous remarquez dans ce texte que David n'utilise pas le moyen d'action de Saül. Saül lui propose ses vêtements, son casque, sa cuirasse, son épée. Et très rapidement, David se rend compte d'un problème. Il se rend compte que ce moyen n'est pas du tout à sa mesure. Ce moyen n'est pas du tout à sa taille. Et ce qui était habituellement une protection efficace pour Saül, et qui lui avait évité bien des blessures, qui l'avait aidé dans son rôle de soldat, aurait été un sérieux handicap pour le jeune berger. Et David est tombé là, et nous bénissons Dieu, à côté d'un piège. Il a refusé de tomber plutôt dans un piège, celui de l'orgueil. Parce qu'imaginez un petit peu pour ce jeune berger, une fois de plus, qui n'était pas du tout un homme d'armée, qui arrive sur ce champ de bataille, et qui se trouve confronté ou en dialogue devant toute l'armée avec le roi. Je ne sais pas si j'avais eu l'occasion un jour de porter le complet veston de Mitterrand. Hein? Non, mais enfin, c'était ça. C'était ça. Vous dites peut-être, oh, ça ne m'intéresse pas, menteur. C'est vrai que quand nous ne sommes pas dans la situation, ça ne nous intéresse pas. Mais vous êtes déjà allé à l'Assemblée nationale? Vous êtes déjà allé à l'Élysée? Comment ça fait quand on va dans certains lieux, hein? Tant qu'on en est loin. Ouh! Mais quand on est en présence, c'est fou ce que ça peut nous tourner la tête quand on ne fait pas attention. Nous sommes tous des êtres humains, même en tant que disciples du Christ. Et pour le jeune David, porter l'armure du roi, c'était un honneur. C'était une occasion unique dans sa vie d'être valorisé. Vous imaginez si son moi pouvait être flatté? Or, s'il était entré dans ce piège, tomber dans ce piège de l'orgueil, il allait tout droit à l'échec, et peut-être même à la mort. Parce qu'alors là, il n'aurait pas fait le poids en face du géant Goliath. Et David a préféré sagement se battre dans sa peau de berger. Il voulait être bien dans sa peau. J'appelle ça l'humilité de la foi. Et j'aimerais ici que nous fassions ensemble quelques applications pratiques pour notre vie aujourd'hui. Et la grande remarque que je voudrais développer maintenant à partir de cet exemple commence par ces mots « non » dans nos vies à l'emprunt et à l'imitation servile de la foi. Je m'explique. Les grands principes de la foi que nous avons évoqués, connaissance de Dieu, existence, expérience, parole de Dieu, intimité avec lui pour pouvoir dégager des convictions dans notre vie, obéissance de la foi, n'est-ce pas, ce sont les grands principes. Si ces grands principes, nous l'avons dit, sont immuables, les modes d'action de la foi sont variés à l'infini. Et nous devons nous garder de toute forme d'emprunt systématique du mode d'action, de la manière de faire dans la foi d'autrui. Nous pouvons être édifiés par les exemples de foi des autres, nous pouvons en tirer des leçons, nous sommes invités à nous en inspirer si nous avons la certitude que Dieu veut, dans telle ou telle situation, que nous passions par le même chemin, mais il ne doit absolument pas y avoir d'imitation automatique. Ça peut être mortel. Quelques exemples. J'encourage, quand quelqu'un se convertit au Christ, cette personne à abondamment lire les Écritures, à les étudier, à les serrer dans son cœur, à avoir une stratégie d'étude de la Bible, ce sera notre thème bientôt, à Hérouville. Et j'invite aussi ses amis à lire des biographies d'hommes, de femmes de Dieu, des temps passés, de manière à pouvoir comprendre comment appliquer certains grands principes, n'est-ce pas, comment ces grands principes de la foi se sont incarnés dans la vie de ceux qui nous ont précédés. Ils ont quelque chose à nous apporter. Mais vous le savez certainement, vous n'avez peut-être pas encore réfléchi à la chose, les biographies sont à double tranchant. D'une part parce qu'elles ne sont pas toujours bien écrites, et je viens encore d'en lire une tout récemment, c'est d'ailleurs un livre épuisé, qui m'a mis très mal à l'aise. Parce que les biographies ont parfois été écrites par des hommes qui étaient de grands admirateurs de ceux dont ils voulaient écrire. Et la tendance était de mettre en évidence les succès et de ne pas souligner assez les échecs, ou les échecs apparents. Parce qu'il vaut quand même la peine de dire que dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, vous avez des dizaines de versets, jusqu'au verset 34, et même à la première moitié du verset 34, il est question des grands exploits de la foi. Hein, il s'est passé des choses extraordinaires. Et puis au verset 34b, et presque jusqu'à la fin du chapitre, il est encore question des héros de la foi. Mais ces héros, à nos yeux, restent comme des zéros. Dans ce sens que ce sont des hommes et des femmes qui ont été apparemment tenus en échec. Il n'est plus question de miracles dans leur vie. Mais ce sont des hommes et des femmes qui ont été lapidés, sciés dans des troncs d'arbres, torturés, qui ont dû fuir dans le désert, qui ont été livrés à des bêtes, qui n'ont connu aucun succès, qui ont été le rebut du monde, qui n'ont peut-être vu personne se convertir par leur ministère. Ils étaient la voix dans le désert. C'est-à-dire que dans les statistiques
Des églises évangéliques d'aujourd'hui, on dirait triple zéro, vous feriez mieux d'aller travailler dans la campagne.
C'est ça. À l'heure de la rentabilité. Hein?
Et pourtant, dans le plan de Dieu, il figure dans la galerie des portraits des héros de Dieu. Et il y a parfois un certain manque d'honnêteté ou un subjectivisme dans la manière d'écrire certaines biographies, qui fait que cela peut nous apparaître écrasant, irréel, on aimerait bien être comme eux. Quelqu'un me disait hier, bon, le problème je trouve c'est que quand je suis dans une vie d'église, souvent en tant que jeune chrétien, c'est que j'ai l'impression que tout le monde est tellement fantastique. Hein, parce que les gens ne parlent pas de leurs problèmes. Et c'est vrai que dans nos églises, on n'est pas toujours très honnête. Je ne veux pas dire qu'il faut parler de nos problèmes pour nous lamenter, mais nous sommes très forts pour mettre des masques. Et il est bon de dire dans l'Église que la vie de la foi est un combat, et qu'il y a des apparents échecs, ou des échecs apparents qui sont autant de succès aux yeux de Dieu, et que l'on apprend à travers les échecs. Alors quand on voit, quand on lit certaines biographies, Hudson Taylor, George Muller et tant d'autres, quelle est la tentation? La tentation c'est d'essayer d'utiliser leur armure. Ce sont les Sauls. On lit certaines biographies, on fréquente des rois, des princes de Dieu. Et on est là, nous, petits bergers, hein. Et puis la manière dont ces biographies sont écrites, sont comme une tentation, tiens mais... Si tu revêtais son armure à lui, il a tellement bien réussi. Alors on essaye leurs recettes qui ont donné de si bons résultats, leurs trucs, en pensant qu'il n'y a pas de raison que cela ne marche pas, puisque ça a marché avec eux. Alors, il y a les disciples de George Muller, qui essayent dans leur vie de vivre par la foi à la manière de George Muller. On y reviendra tout à l'heure, et qui en général se dressent contre ceux qui ont d'autres approches. Au niveau de la foi concernant le soutien financier, etc. Mais on y reviendra. Ou de Hudson Taylor. Il y a ceux qui essaye d'utiliser la technique de la prédication de Billy Graham, hein? La Bible dit! Quel est le jeune prédicateur qui n'a pas rêvé de ressembler à ces illustres hommes? Le problème, c'est quand ça dure. Il est bon que nous ayons des héros. Le problème de notre temps, c'est qu'il n'y a plus de héros. Le jeune a besoin de s'identifier à des héros. Hélas, les héros qu'on présente aux jeunes d'aujourd'hui posent pas mal de problèmes. Et c'est ainsi que naît ce qu'on appelle le plagiat de la foi. Et j'aimerais dire ici, attention à ceux qui sont appelés à présenter des méthodes. Je vais le faire au mois de juin. Méthode d'approche personnelle de la vie. Et chaque fois que je présente des méthodes d'approche personnelle de la Bible, Dieu me redit la même chose. Fais attention. Fais attention à la manière dont tu vas la présenter. Pour que personne n'ait l'impression qu'il s'agit simplement de trucs, fais-le, et puis, après ça, hein, tu es assuré du succès. Attention dans les séminaires sur la croissance de l'Église. C'est la même chose. Nous sommes dans le temps... Ou même dans l'Église de Jésus-Christ, on présente de plus en plus de recettes. Et si on ne fait pas attention de bien présenter les principes et d'être très nuancé dans les autres domaines, on risque de créer des leurres, des déceptions et des drames dans la vie de ceux auxquels on essaye de transmettre un message. Que ce soit dans le domaine de l'évangélisation, de l'étude de la Bible, la manière et l'esprit sont importants pour éviter le plagiat pur et simple, sans qu'il y ait la vie de la foi et l'intimité avec le Seigneur par derrière. Vous avez beaucoup d'exemples dans les Écritures. Je vais en citer deux ou trois, on laissera les autres à votre réflexion. Je pense simplement à ce texte de 2 Rois 6, 1 à 7 où les fils des prophètes demandent à Élisée, à cause d'une crise de logement, de pouvoir aller avec lui au bord du Jourdain, couper des arbres pour construire, je dirais aujourd'hui, une nouvelle annexe à cette église en pleine explosion, n'est-ce pas? Et vous savez qu'alors que l'un des fils des prophètes est en train de travailler avec sa hache, le fer tombe à l'eau. Et cet homme de s'écrier, « Ah, mon Seigneur !» Il n'était pas amant, il était emprunté. Littéralement, le texte sous-entend qu'il était mendié, c'est-à-dire qu'il avait même eu du mal à l'obtenir. Et alors Élisée va intervenir, va lui demander de montrer l'endroit. Il y a là tout un message extraordinaire qui se cache derrière ces quelques mots. Et puis il va le faire remonter à la surface par la puissance de Dieu. Et l'homme va donc récupérer une partie de son outil. Voilà une illustration très concrète de notre message. Nous pouvons travailler avec une puissance d'emprunt. Le fer de la hache, c'était ce qui donnait la puissance à la hache, n'est-ce pas? Il aurait pu essayer de couper encore pendant des heures du bois en tapant avec son manche, il se serait peut-être démis le bras. Et on peut, dans l'église de Jésus-Christ, travailler avec une puissance d'emprunt. C'est-à-dire, par exemple, être un jeune qui vit de la foi de ses parents. Quand on est élevé dans une famille qui connaît le Christ, de deuxième génération, si vous voulez, où depuis son enfance, on entend l'évangile, on fait le culte de famille, on baigne continuellement dans un climat à dimension spirituelle, le jeune aura bien sûr tendance, et on le comprend, à s'identifier à ses parents et à s'appuyer en quelque sorte pendant toute une partie de sa jeunesse sur la foi de ses parents, sans qu'il y ait dans sa vie d'expérience propre, sans qu'il y ait d'engagement personnel avec le Seigneur. Et disons que parfois les parents chrétiens n'aident pas. Dans ce sens qu'au lieu de laisser une certaine autonomie aux jeunes qui grandissent, ils vont être constamment derrière lui en lui disant « Est-ce que tu as fait ta méditation ce matin ?» Comprenez? Ce qui est le meilleur moyen à la longue, de ça rase. Que tout petit, on dirige pour donner de bonnes habitudes. Il y a des habitudes qui sont saintes, n'est-ce pas? Mais il arrive un moment où les parents doivent aider le jeune à trouver son identité. Vous savez que c'est le moment le plus difficile. Alors, n'évoquons pas les autres aspects, mais il y a l'identité spirituelle. Et les parents doivent aider de manière à ce que l'enfant grandissant ne travaille pas avec leur fer de hache, mais qu'il acquiert sa colonne vertébrale spirituelle personnelle. C'est l'épouse qui vit sur la foi personnelle de son mari. Beaucoup d'épouses dans des couples où le mari marche vraiment avec le Seigneur, beaucoup d'épouses sont tentées de s'appuyer sur la foi de leur mari. Elles vivent très peu de méditation personnelle. Elles s'appuient sur ce fait qu'elles vont peut-être rencontrer le Seigneur avec le mari. C'est pas toujours le cas, hélas, trop peu souvent même. Ou bien simplement, elles vivent dans le sillage de leur époux, dans le domaine spirituel. Et j'en parle en connaissance de cause, non pas dans notre vie, mais simplement parce que, il y a 20 ans, je faisais la connaissance en Suisse d'une femme de Dieu qui était veuve depuis une année. Elle avait, comme on dit là-bas, 70 ans. 70 ans. Elle fête le 26 mai ses 90 ans, ses 90 ans. Et quand je l'ai rencontrée en démarrant dans son sous-sol un club de jeunes de la rue dans la ville de Lausanne, des jeunes qu'on récupérait dans la rue et avec lesquels on passait une soirée par semaine, et elle avait ouvert sa maison. Elle a éprouvé le besoin de pouvoir s'ouvrir, partager des fardeaux, et elle était en pleine déprime. Et sa déprime était liée précisément au fait qu'une année plus tôt, son cher époux, avec lequel elle avait vécu 40 années de vie conjugale, très belle, ce mari qui avait été très engagé dans le service de Dieu, tout en ayant de hautes responsabilités dans le domaine profane, ils avaient eu 4 filles, un beau foyer, ce mari était parti auprès du Seigneur subitement. Et c'est à ce moment-là dans sa vie qu'elle a réalisé, en dehors de tous les problèmes créés par ce départ si rapide, c'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle n'avait pas de colonne vertébrale spirituelle. Elle s'est rendue compte que continuellement pendant ces décennies, elle avait vécu en s'appuyant sur la foi de son mari. Il était là comme un bouclier, il encaissait tous les coups pour elle, n'est-ce pas? Il menait le foyer et elle se cachait derrière lui. Au lieu d'avoir son propre bouclier de foi à elle, c'était derrière son bouclier de foi à lui qu'elle se cachait. Et elle était complètement désemparée. Et il y avait chez elle une sorte d'infantilisme spirituel après des dizaines d'années pourtant de marche en tant qu'enfant de Dieu. Alors nous nous sommes profondément liés puisqu'elle a commencé à prier tout d'abord pour moi en tant que célibataire, puis ensuite mariée, puis avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Elle a prié, puis elle prie tous les jours pour nous encore à l'heure actuelle. Et puis nous avons vécu très près sur ce plan. Elle a beaucoup partagé, et nous l'avons vu, et toute sa famille l'a vu. Nous avons fait connaissance de tous les autres membres de sa famille, une grande famille, et tout autour d'elle, sa famille a commencé à la voir s'épanouir spirituellement. Elle a pris l'habitude de se réfugier dans le Seigneur, de prendre certaines décisions, de développer une colonne vertébrale spirituelle. Et je crois que dans un couple, c'est important, il faut y veiller à cela. N'est-ce pas? Avoir en même temps une relation étroite, qui est la règle même du couple, mais en même temps, veiller à ce que chacun de son côté ait une vie spirituelle personnelle et que ce ne soit pas toujours l'un qui prenne les décisions pour l'autre. Chacun doit mûrir, chacun doit grandir. Et il arrive même qu'il faille que l'on s'attende un peu. C'est-à-dire que l'on se respecte dans ses différences de maturité au plan spirituel. Ça fait partie de l'amour. Et il y a aussi le croyant qui n'emprunte sa vie spirituelle qu'à la communauté à laquelle il appartient. Il est des croyants qui empruntent leur vie spirituelle peut-être même à la maison évangélique d'Oulgat. Parce que c'est quand ils sont à la maison évangélique d'Oulgat qu'ils fonctionnent spirituellement à plein. De même que j'ai entendu dire, de manière très directe, de la bouche d'un participant à un voyage organisé par nos amis en Israël, j'ai entendu moi-même la bouche d'un participant dire ceci: notre seule vie d'église, c'est notre voyage. Bon, ça nous a fait drôle. Mais ça, c'est aussi une forme de christianisme d'emprunt. On emprunte à un événement toute sa spiritualité. Et il se peut qu'il y ait eu ce matin, je ne porte aucun jugement, je ne vous connais pas, mais il se peut qu'il y ait eu ce matin des amis qui sont venus au culte, là-bas, hein, sous ce magnifique clocher au bord de l'eau, des amis qui sont entrés dans ce temple, qui à ce moment-là ont en quelque sorte revêtu l'armure spirituelle de l'église d'Oulgat, et puis à la sortie, ils ont ôté l'armure, ils l'ont posée, puis ils attendent dimanche prochain. Et dans une église locale, on peut vivre de cette manière. On vient faire le plein, n'est-ce pas? On emprunte une dose. On accepte même de se couler dans certains moules spirituels. Et puis quand on part et qu'on se retrouve dans le quotidien de la vie pendant la semaine, on retrouve sa véritable identité, et parfois tellement différente. Il y a encore un autre cas, c'est celui du pasteur, du serviteur, qui n'emprunte qu'au livre, aux commentaires, sans recherche personnelle pour sa préparation des messages. Alors il a une grande bibliothèque. Il achète tous les livres qui sortent. Et quand il prépare son message, il ouvre des dizaines de livres autour de lui et il apporte à l'église locale tout ce qu'il a emprunté aux autres. Certes, nous bénissons Dieu d'avoir inspiré les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, dans le passé, et de leur avoir donné un don pour qu'ils écrivent. Nous ne voulons pas les repousser en disant que nous n'avons besoin que du Saint-Esprit. Béni soit Dieu pour tous ces écrivains du passé. Mais ce qui est grave, c'est quand dans nos responsabilités, si nous sommes moniteurs d'un club d'enfants, d'une école du dimanche, si nous animons un club de jeunesse, un club chrétien féminin, un groupe d'études bibliques de quartier, malheur à nous si nous vivons ce christianisme d'emprunt, c'est-à-dire si la seule nourriture que nous partageons avec les autres est déjà directement reçue de quelqu'un d'autre. Et j'aime à dire que, qui que nous soyons, à quelque niveau que nous nous placions dans l'enseignement, il importe absolument qu'avant d'ouvrir un livre écrit par le meilleur auteur, nous nous penchions d'abord sur notre Bible, sans aucun autre appui que le secours du Saint-Esprit. Ça doit être une règle de notre vie, que ce soit pour les clubs d'enfants, quelle que soit notre responsabilité dans la communication de l'Évangile. Pourquoi? Parce que nous devons apprendre à plancher devant une feuille vierge. Nous devons apprendre à plancher devant une feuille vierge parce que c'est humiliant. Parce que ça brise. Parce que ça fait pleurer, ça fait supplier Dieu. Ça nous met dans une situation de dépendance de notre Dieu. Et nous avons besoin absolument d'apprendre à dépendre de notre Dieu. Et il faut des crises d'enfantement pour se communiquer ou pour communiquer le message à autrui. Ne croyez pas que ce soit une chose facile. Croyez que souvent derrière certaines communications de l'Évangile, il y a des luttes qui ont parfois valu des nuits d'angoisse. Je me souviens quand j'étais étudiant, notamment de l'enseignement que nous donnait le pasteur Maurice Ray, qui est connu à cause des questions d'occultisme qu'il nous enseignait d'ailleurs, et dont Dieu a vraiment béni le ministère d'enseignement. Et cet homme de Dieu nous disait dans les cours qu'il nous donnait, dans notre préparation, « Vous savez, quand j'ai commencé à me préparer pour donner des messages, oh, il était fréquent que je plonge pendant 25 heures sur un message, et que je passe des moments très durs, très douloureux. Et nous, jeunes étudiants, nous étions parfois plutôt sceptiques. On avait du mal à imaginer. Et puis ensuite, on se rend compte combien c'est vrai. Et je peux vous assurer qu'il m'est arrivé parfois de passer une semaine devant une feuille blanche. Une semaine. Simplement à la recherche de la pensée de Dieu. Il m'est arrivé de travailler ensuite, au bout de cette semaine, pendant une journée d'affilée, d'essayer de construire quelque chose en discernant la pensée de Dieu, et d'arriver le samedi soir, pourtant avec une longue réflexion et avec le sentiment que ce n'était pas le plan de Dieu. Et me couchant en disant, Seigneur, moi je n'en peux plus. Tu sais que demain j'ai un enseignement à donner, réveille-moi cette nuit. Fais ce que tu veux, mais je suis complètement démuni, je dépends complètement de toi. Et en pleine nuit, le Seigneur me réveillait, et en 2 heures, il me donnait le ciel ouvert. Mais je vous assure que le résultat, c'était que ce dimanche-là, je savais que c'était lui qui m'avait donné le message. Vous comprenez? C'était pas la gloriole. C'était passé par la croix. C'était passé par la croix. Et il importe dans tous les domaines que nous ne coupions pas, n'est-ce pas, que nous n'acceptions pas les raccourcis qui nous permettent d'éviter la croix. Et souvent, l'emprunt, le plagiat, c'est le refus d'accepter cet aspect douloureux d'apprentissage de la dépendance de Dieu. N'est-ce pas? Cet effort où l'on ne veut dépendre que de Dieu seul. Ceci est très, très important. J'appelle ça vivre sa foi par procuration. Vous avez un second texte intéressant sur ce plan. Dans Actes 19, versets 13 à 16, Actes 19, versets 13 à 16, où il est question de quelques exorcistes juifs itinérants qui essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ?» Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Voilà donc des exorcistes juifs qui travaillaient avec une puissance empruntée à Paul. Mais elle ne faisait pas partie de leur expérience propre. Et le résultat, c'est que non seulement cette puissance, celle du Christ, fut inefficace pour eux, bien que merveilleusement agissante par Paul, mais de surcroît, surtout dans le domaine des problèmes d'occultisme, cela a été une entrée, une faille dans leur vie par laquelle la puissance des ténèbres a pu pénétrer. Oh, nous aurions pu prendre, mais vous le ferez dans le détail, le texte de 2 Rois 4, 29 à 37, vous pouvez le noter, lorsque Élisée reçoit la visite de la Tsunamite qui vient de perdre son enfant alors qu'il demeure sous son toit. Et elle est toute chavirée par ce qui lui arrive, elle ne comprend pas certaines choses, elle fonce donc à toute allure vers l'homme de Dieu et elle vide son cœur devant lui. Élisée l'entend, il avise son stagiaire Géasi et lui dit écoute, prends mon bâton et puis tu fonces à toute allure vers la maison, vers l'enfant, tu ne salues surtout personne en chemin et quand tu arriveras, tu poseras ton bâton sur le visage de l'enfant et ça doit marcher. Géasi en stagiaire obéissant, fait exactement ce que son patron lui dit. Quel est le résultat? Rien ne se passe. Et c'est ainsi qu'Élisée va se rendre compte que on ne peut pas donner sa foi à quelqu'un d'autre par procuration. Et qu'en réalité, Géasi, son serviteur, n'avait pas encore, de toute manière, peut-être la capacité spirituelle pour aborder le problème posé par le décès de cet enfant. C'est-à-dire que Élisée a surévalué la spiritualité de son assistant et il a sous-évalué la dimension du problème. Parce que, alors, quand Élisée est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a engagé un véritable combat qui a peut-être duré des heures, parce que nous n'avons que le résumé, là. On le voit qui se couche, qui met ses mains sur ses mains. Il y a toute une thérapeutique spirituelle, il y a tout un enseignement derrière tout cela. Il y a tout un attouchement, Dieu a voulu nous enseigner quelque chose, et entre autres que ce n'était pas facile. que la relation d'aide, la cure d'âme, ramener à la vie quelqu'un qui spirituellement vient de mourir, n'est-ce pas? C'est pas facile. Et on le voit qu'il se lève, qu'il va et qu'il vient à travers la maison, sans doute en train de supplier le Seigneur, en lui disant, mais Seigneur, interviens s'il te plaît. Vois cette situation, n'est-ce pas, qui répand son cœur devant Dieu. Et puis, vous savez que finalement, le miracle a lieu, mais au bout du combat. On ne peut pas comme ça confier son bâton, c'est-à-dire sa puissance, comme si elle était à nous. Et on ne peut pas l'emprunter, serviteur de Dieu, à celui qui doit agir dans telle ou telle direction. J'appelle ça la magie de la foi. Certains pensent que la foi, dans son action, c'est une sorte de magie. Nous pouvons avoir de très fausses conceptions dans ce domaine. Ma conclusion, à ce premier point, David était berger. Et il a utilisé ses dons de berger. Plus tard, il est devenu un guerrier renommé et il a alors utilisé ses dons de guerrier. Le Seigneur nous demande de mettre à son entière disposition les dons, les capacités qu'il nous a accordées en propre. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons être épanouis dans notre vie spirituelle? C'est entre autres le fait que nous acceptions nos limites et nos possibilités et que nous n'essayons pas à tout prix de faire comme les autres, d'être comme les autres. Dieu veut que nous soyons heureux dans notre peau, à notre place. Et vous savez que c'est tout un apprentissage de s'accepter, non seulement déjà au plan humain, mais aussi au plan spirituel. D'être heureux à sa juste place. Dieu nous demande d'être nous-mêmes dans la manifestation de notre foi. Ce qui a fait dire Alfred Kuhn dans sa transcription de Romains 12, 3, Dieu m'a fait grâce, il m'a accordé un ministère et des dons. C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités, n'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi, ou selon la mesure de votre foi, c'est-à-dire en vertu de la capacité spirituelle qui a été donnée à chacun d'entre nous en fonction des besoins du corps de Christ. Et c'est ainsi que nous devons aussi savoir parfois dire non. Lorsqu'on veut nous faire faire des choses qui manifestement ne sont pas dans nos cordes spirituelles. Il m'arrive plus d'une fois de devoir répondre à certaines invitations en disant non, incompétent. Je peux vous recommander telle ou telle ou telle personne, mais ne me demandez pas. C'est très gentil à vous de m'inviter, mais c'est pas mon domaine. Alors, il arrive parfois que le Seigneur veuille m'ouvrir de nouveaux champs. Alors là, il me le dit, et il me le dit suffisamment fort pour que je fasse le pas de la foi et que j'accepte l'invitation parce que je sais que là, Dieu veut me pousser en avant dans une direction. Mais je ne bouge pas tant que le Seigneur n'a pas appuyé, hein, clairement. Il faut que ce soit clair. Alors est-ce qu'il n'y a pas parfois des jalousies dans nos vies d'église qui sont liées au fait que nous voudrions tellement faire ce que l'autre fait, alors que tout le monde autour de nous crie que nous sommes incompétents. Il n'y a que nous qui ne le voyons pas. Je crois que dans l'église locale, il importe que nous prêtions attention à ce que le collège local, le corps local, pense de nos aptitudes. Souvent, nous pensons être très capables et quand nous nous mettons au travail, on fait un tas de dégâts. Et en réalité, tout le monde autour de nous reconnaît que ce ne sont pas nos dons et qu'il vaudrait mieux que nous nous mettions à l'écart, que nous fassions autre chose. Il y a tant de travail dans l'église. Il faut l'accepter. Sinon, on fait des dégâts. Et puis c'est suicidaire pour soi-même, comme avec David, n'est-ce pas? Je pense à cette petite montre qui était mécontente d'être dans la poche d'une dame. Et elle enviait Big Ben, la grande horloge dans la tour du Parlement de Londres. Et un jour que la montre et la dame traversaient le pont de Westminster, la toute petite montre de s'écrier au fond de la poche de la dame: je voudrais bien être où se trouve Big Ben, je pourrais alors être utile à de nombreuses personnes au lieu de ne l'être qu'à une seule. Et finalement, la dame en a eu tellement marre qu'elle lui a dit: ah ben, tu vas voir ta chance. Elle a fait appel aux gens compétents et on a hissé, au grand shocking de beaucoup d'Anglais, la petite montre le long de la tour du Parlement par une fine cordelette. Et quand elle est arrivée en haut, on l'a perdue complètement de vue. Son élévation était devenue son anéantissement. J'ai peur qu'on veuille parfois être Big Ben. Hein? Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant chevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Gardez-le là-bas. Voyez? Le petit enfant auprès de sa mère. Vous croyez qu'il envie quelqu'un d'autre? Il est auprès de sa maman, il est à sa place. C'est ce que Dieu veut dans notre vie. Et ça fait du bien de cesser dans notre vie de vivre perpétuellement sous tension parce qu'on veut mettre l'armure des autres. Et puis enfin, troisième remarque, ne dissocions pas nos actes de foi quotidien d'une vie spirituelle profonde, d'une relation intime et constante avec celui qui veut les inspirer. Il est si facile de tomber dans le formalisme et le christianisme d'emprunt. L'action de la foi doit être l'expression de la vie, de la foi. Deuxième doigt de cette main de l'action de la foi. Toujours dans 1 Samuel 17 et au verset 40, il nous est dit que David prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le moyen de l'action de la foi doit être choisi avec soin. C'est-à-dire que nous devons être soigneux dans nos actes de foi. Dans toutes nos actions de la foi, nous devons être soigneux. Ce moyen doit être recherché intelligemment pour être adapté aux besoins spécifiques. Et cela souligne une recherche de la pensée de Dieu par l'utilisation de toutes les facultés qui sont nôtres: raison, intelligence, bon sens sanctifié, réflexion, sagesse d'en haut. Et il faut reconnaître que David a fait un choix personnel judicieux en fonction de la situation particulière du moment et des données de la situation. Et là, nous revenons sur des choses que nous avons touchées ces derniers jours. À savoir que la foi n'est pas à confondre avec une attitude de tête brûlée. Elle ne fait pas abstraction du bon sens. Elle utilise la matière grise. Elle n'est pas tout à fait une aventure. Je n'aime pas le terme aventure associé à la foi, parce que il y a des principes, il y a des règles. Or, dans l'aventure, hein, on est en terrain aventureux, hein. Il faut faire attention avec ce terme aventure, parce que ça donne une connotation, c'est du jouer à la roulette un petit peu tout ça, hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Nous allons y revenir. Par exemple, lorsqu'Israël tournait autour de Jéricho, Josué chapitre 6, c'était l'audace réfléchie de la foi.
On avait rencontré l'Éternel à Gilgal, et à Gilgal, Dieu avait révélé un plan d'action. Mais lorsqu'une poignée d'hommes part contre Haï, dont on parlait au repas de midi, hein, pour le concours, pour le dessert, ce n'était plus l'audace de la foi. C'était la présomption de l'orgueil. D'une part, Josué a envoyé directement de Jéricho vers Haï, c'est-à-dire qu'on n'est pas retourné à Gilgal, le lieu de rencontre avec l'Éternel, et le lieu d'ailleurs où l'Éternel aurait révélé qu'il y avait un interdit. Et le lieu aussi où, par la même occasion, il aurait révélé qu'il fallait entreprendre une stratégie toute particulière nécessitant toute l'armée d'Israël pour vaincre Haï. Parce qu'ils sont partis à 2 ou 3 000, et finalement ils ont été battus à plate couture, et ensuite, au chapitre 8, on voit se mettre en place une stratégie nécessitant plus de 30 000 personnes, et aussi tout un plan de bataille digne des stratégies modernes. C'est très intéressant. La présomption de l'orgueil, l'absence ou le refus de la réflexion. Ça me fait penser à ce qui s'est passé en 56 avant Jésus-Christ, lorsque les Romains se sont attaqués à l'Armorique, à ce qui n'était pas encore la Bretagne. Ça m'intéressait beaucoup quand j'étais en Bretagne. Ils étaient sous le commandement de Jules César et ils avaient en face d'eux les Vénètes. Et les Vénètes étaient les ancêtres des actuels Bretons, regardez à ma droite, à la tête d'une magnifique flotte de bateaux de chêne aux voiles de cuir, véritables géants face aux embarcations romaines. De tout temps, vous le savez, le monde breton, très loin en arrière, a été doué pour la mer. Et pour la terre. Je suis obligé de le dire parce que je vais avoir des problèmes. Et les Romains ont tremblé. Les Vénètes étaient très conscients de leur supériorité, au point qu'ils avaient négligé de prendre des armes à bord de leur bateau. Les manœuvres ont commencé. Au début, les Vénètes ont eu le dessus. Et voilà que le vent est tombé. Et à ce moment-là, les Romains, à l'aide de perches surmontées de faux de paysans, vous voyez qu'on avait besoin des paysans, hein, on parle finalement, c'est juste, sont allés couper les vergues et monter à l'assaut, massacrant impitoyablement les Vénètes, et c'est ainsi que l'Armorique a été prise. Vous voyez, la présomption de l'orgueil qui ne prend pas toutes les précautions. Nous sommes tellement forts. Vous vous rendez compte, partir en guerre en négligeant de prendre des armes. Et c'est toute une région qui tombe aux mains de l'ennemi. Je dirais que la vraie foi met le maximum d'atouts de son côté. Elle ne néglige rien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est à l'opposé de notre conception de la foi. Nous, quand on parle de foi, hein, « Oh Seigneur, je compte sur toi oui. !» J'en fais rien. On compte tellement sur le Seigneur. Regardez David. Il choisit 5 pierres dans le torrent. Et il le fait soigneusement. Il aurait pu ramasser des cailloux autour de lui, là où il était. Non, il va chercher un torrent. Et ça ne court pas les rues en Israël, les torrents. Et il va dans le torrent et soigneusement, il choisit ses cailloux. Rien n'est laissé au hasard. Quelqu'un me posait en devinette à midi la question « Pourquoi est-ce qu'il a choisi 5 cailloux ?» Et j'étais content d'entendre un petit garçon de répondre « Parce que, bien sûr, Goliath avait des frangins. » Et c'est vrai parce que dans 2 Samuel 21, versets 15 à 22, il y a 4 autres géants dans cette famille de Goliath. C'est vrai. C'est juste. Donc David avait parfaitement raison, il se disait, et c'est vrai, peut-être que si lui roule dans la poussière, il y en aura d'autres de la même famille, leur sang ne va faire qu'un tour, hein, c'est la vendetta, et puis ils vont venir. Alors il faut que j'aie de la réserve. Mais je crois qu'il y avait autre chose. Je fais remarquer d'ailleurs ici au passage que ces 4 autres géants de 2 Samuel 21, versets 15 à 22, ont tous été battus. battu dans des conditions et avec des armes différentes. Ça va nous servir tout à l'heure. Dieu avait une méthode différente pour battre chacun d'entre eux. Mais je crois qu'il y a une autre raison. C'est que David était humble dans sa foi. Qui sait, il était peut-être champion de son coin, hein, de son patelin, dans le tir. Peut-être avait-il l'habitude de faire de viser dans le mille de la cible. Mais l'humilité de la foi, vous voyez, l'humilité de la foi, souvent, nous, la foi, l'humilité, nous. L'humilité de la foi veut qu'on accepte qu'on puisse connaître l'échec, d'abord. Oh Dieu, tu sais, je peux très bien manquer mon premier coup. Je peux même manquer mon second coup. Je peux manquer mon troisième coup. Donc, je mets le maximum d'atouts de mon côté. Pourquoi cinq pierres encore? Il est dit qu'il en a mis, il les a mis dans sa gypsière et dans sa poche. Ou peut-être dans la poche de sa gypsière, on peut traduire des deux manières. Il fallait qu'il ne soit pas trop lourdement chargé, il aurait pu prendre un wagon avec lui, hein, s'il manquait vraiment de confiance. Des dizaines et des dizaines. Non, il fallait en même temps réfléchir pour qu'il puisse se déplacer agilement, on va le voir, sur ce terrain de bataille. Vous voyez, il y avait toute une réflexion dans l'esprit du jeune David. Et puis, il choisit cinq pierres polies. C'est-à-dire qu'il vise l'efficacité. La pierre volera plus vite et plus loin. Et j'aimerais dire ici, et combien cela est vrai pour nos milieux évangéliques. La foi n'est pas brouillonne. Et souvent nous devons nous humilier dans nos milieux évangéliques parce que nous sommes terriblement brouillons. Nous nous contentons dans beaucoup de domaines de l'à peu près. Je ne voudrais faire de peine à personne, je pense à Pierre. On se connaît bien, hein. Mais je suis très frappé par la manière dont, si souvent, alors qu'on a le désir d'enregistrer des études, l'ennemi nous coince facilement. Je ne sais pas quel est le pourcentage de situations dans lesquelles je crois qu'il était dans la volonté de Dieu que certaines études soient enregistrées dans les voyages, non pas parce que c'est Maurice Decker qui parle, mais simplement parce que ce sont des moyens fantastiques. Quand on entend, en voyageant, comment le Seigneur travaille à partir de cassettes, on loue le Seigneur pour cela. Même si elles ont leur double tranchant, hein, c'est de faire de certains chrétiens des paresseux qui ne vont pas aux réunions où ils devraient aller. Je le dis entre parenthèses. Mais il m'arrive souvent de dire dans les églises, mais mettez le maximum d'atouts de votre côté. C'est-à-dire que tout, ayez un matériel que vous préparez à l'avance. Souvent dans les églises, on arrive au dernier moment, là, alors déjà, même que l'enseignant s'apprête à parler, et puis on a un tas de boutons, un tas de fils entremêlés, un pied qui n'existe pas, etc. N'est-ce pas? Il y a un affolement général, on met les prises dans les mauvais trous, ça fait des bruits, etc. Et finalement, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est la foi brouillonne. Ça, c'est la foi brouillonne. Nous devons, dans notre vie, mettre le maximum d'atouts de notre côté. Vous savez, j'ai dû l'apprendre dans le domaine de la préparation de mon enseignement. Si vous voyez mes manuscrits de préparation d'il y a 15 ans, ça vous ferait rigoler. Enfin, moi, ça me fait rire. Parce qu'il y a 15 ans, je mettais des notes, et puis quand je donnais mes messages, et que j'essayais de temps en temps de lever le regard pour avoir un peu de liberté, quand je redescendais le regard, où est-ce que j'en suis exactement? Parce que je jetais des mots sur le papier. Et puis, j'ai fait tellement d'expériences de foi brouillonne que Dieu m'a demandé de commencer à préparer, je vous donne un exemple dans ma propre vie, très simple, n'est-ce pas? Commencer à écrire bien les choses. Et alors que normalement, on pourrait penser que au début d'un ministère d'enseignement, il faut au contraire faire tout en détail, et puis après on s'en passe, eh bien je me suis rendu compte dans l'expérience de mon ministère que c'est exactement le contraire. Plus j'avance dans l'enseignement, plus je suis précis sur mon papier, plus j'utilise des couleurs, plus j'utilise des numéros. Et je peux vous dire une chose, allez demander à Billy Graham comment il fait comme ça, je ne fais pas comme ça à cause de lui. Mais un jour, j'ai lu des remarques faites au sujet de son ministère et j'ai été très heureux de voir que, par exemple, Billy Graham est un homme qui a une grande liberté, quand vous le voyez prêcher, il a une grande liberté. Vous savez pourquoi il a cette liberté? Parce qu'il n'est pas brouillon dans son action de foi. C'est-à-dire qu'il se prépare très soigneusement. Il met des numéros, il souligne, il utilise la couleur. Les hommes de Dieu ont vu son travail de préparation. Et c'est ce qui fait qu'il est libre ensuite, n'est-ce pas? Mieux on se prépare, plus on est sérieux, et ce qui est valable pour l'enseignement, c'est valable pour tout dans la vie de l'Église. Mieux vous vous préparez, plus vous êtes sérieux, moins vous êtes brouillon, plus vous aurez ensuite de liberté et d'épanouissement dans le Seigneur, dans votre pratique. Ceci est d'une importance capitale. Alors pensons dans nos vies à tout ce qui peut être négligent et brouillon. Simplement parce que compter sur le Seigneur, pour nous, c'est peut-être trop être passif. Alors que nous devons vraiment mettre le maximum d'atouts de notre côté. Pourquoi? Parce que nous sommes engagés dans une guerre à outrance. Je ne sais pas si nous nous rendons toujours compte que dans la vie chrétienne, même dans le repos qui doit être le nôtre, le repos de la foi, nous appuyer sur la grâce de Christ, et c'est tout un apprentissage, nous sommes engagés dans une guerre à outrance. C'est-à-dire que l'ennemi fait tout pour ne pas nous louper. Quand nous sommes dans l'offensive de la foi, que nous voulons avancer avec le Seigneur, l'ennemi cherche toutes les failles dans l'armure. Et nous devons apprendre dans notre vie de disciples à tout faire comme si tout dépendait de nous, et à prier comme si tout dépendait de Dieu. Parce qu'il se trouve que dans sa grâce, Dieu travaille avec nous. N'est-ce pas? Donc je travaille en mettant le maximum d'atouts, mais alors dans la prière, n'est-ce pas, je crie ma dépendance de Dieu pour la pratique de la foi. Une conclusion ici. Dieu a un moyen de délivrance, d'action, d'offensive, une solution particulière pour chaque situation. Dans cette situation, sur ce champ de bataille, à la date qui ne nous est pas indiquée, au moment où les deux armées étaient face à face, Dieu avait choisi ce moyen correspondant au don de ce jeune berger. Mais même dans la vie de David, David a dû apprendre que placé exactement dans les mêmes circonstances, avec la même armée, avec les mêmes personnages, il plaisait à Dieu de lui demander d'agir autrement. Je voudrais vous donner ici deux exemples, parce que là nous voyons quelque chose de très important dans la marche par la foi. 2 Samuel 5, versets 17 à 25. 2 Samuel 5, versets 17 à 25. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pératsim, où il les battit, puis il dit « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. » Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. Vous remarquez, c'est le même verset. dans la même vallée, les mêmes ennemis. Que fait David? Il ne tombe pas dans un piège dans lequel nous nous trouvons fréquemment. Nous avons tendance à dire, oh, tous les facteurs sont réunis exactement comme dans le passé, donc je vais pouvoir reproduire l'action de la foi de la dernière fois, n'est-ce pas? J'ai été malade, le Seigneur m'a demandé d'agir de telle manière, maintenant j'ai la même maladie, j'ai le même problème, dans le même cadre, donc je vais faire comme la dernière fois et ça va marcher. Ça nous est jamais arrivé, ça? Alors que dans chaque situation, Dieu a une autre solution. Et c'est exactement ce que David avait appris pendant ses 12 ans à traîner ses chaussures dans le désert poursuivi par Saül. Cette souplesse, cette malléabilité, cette disponibilité de l'action de la foi. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Gueba jusqu'à Gezer. C'est pas intéressant de voir que cette dépendance de David vis-à-vis de Dieu lui a permis de recevoir la révélation d'une autre stratégie dans une situation semblable. Voilà un premier exemple. Il en est un second très intéressant dans le livre d'Esdras, au chapitre 8, versets 21 et 23 à 23. Esdras 8, 21 à 23. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Alléluia. Et certains l'applaudirent d'une manière toute particulière en disant, voilà un homme qui avait appris à vivre par la foi. Et c'est juste. Esdras, homme de Dieu ici, réagissait de manière remarquable. Et il ressemblait un petit peu à ceux qui, dans la ligne de Georges Müller, ne touchent pas un salaire mensuel tout en étant au service de Dieu, vivent simplement de dons qui arrivent comme ça. Ils ont cette conviction, Dieu soit béni pour leur conviction. Il fut un temps où je fonctionnais de cette manière. Et je bénis Dieu pour tout ce que j'ai appris dans cette période. Mais là où ça ne va plus, c'est quand les deux écoles se battent. C'est-à-dire que cela accuse ceux qui touchent un salaire mensuel de la part de leur église en disant, vous ne vivez pas par la voie, vous ne marchez pas par la voie. Est-ce que tu penses ça? Parce que de toute manière, que ça vienne par un canal ou par un autre, il faut quand même que l'argent arrive. On doit quand même dépendre de Dieu pour le réaliser, ce salaire, n'est-ce pas? Alors là, ce qui est intéressant, c'est que dans Néhémie, au chapitre 2 et au verset 9, dans une situation tout à fait similaire quelques années plus tard, Néhémie 2, verset 9, c'est Néhémie qui parle, il a reçu des lettres, car la bonne main de son Dieu était sur lui, toutes sortes de passeports, de visas, d'attestations, tout ce qui lui était nécessaire pour entreprendre toutes sortes de démarches en Israël. Et il est dit au verset 9, je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Dites donc, qui était le plus spirituel des deux? Qui d'entre nous oserait dire que Néhémie avait moins de foi qu'Esdras? Quand on sait quelle était la position d'autorité, le rôle que jouait Néhémie à la cour d'un roi, n'est-ce pas? Et tout ce que ça signifiait pour lui que d'accepter de changer complètement de statut, de devenir un pionnier dans cette terre de Juda avec tous les problèmes que cela allait poser. On me dira que parce qu'il a accepté une escorte, là où Esdras n'en avait pas accepté, ce n'était pas un homme de foi. Mais c'est exactement ce que nous faisons trop souvent. Nous avons tendance à juger de la foi des autres à la lumière de nos expériences. Mais alors, attention, j'aimerais nous dire que nous risquons de nous enfermer dans des situations terribles, dans ce sens que nos propres statuts peuvent changer. La preuve, c'est ce qui m'est arrivé. Et si j'avais pendant des années clamé que la seule vie par la foi au niveau des finances, c'était de dépendre de dons, vous vous rendez compte ce qui serait arrivé le jour où j'ai eu un salaire dans une église? N'est-ce pas, nous devons faire très attention. Parce que pendant une certaine partie de notre vie, Dieu peut nous demander d'agir d'une certaine manière, et ceci en dehors de tout ministère. Et à un autre moment de notre vie, Dieu peut nous demander des choses tout à fait différentes dans la même situation. C'est pourquoi il faut être ferme sur les principes, mais extrêmement souple sur les moyens d'action, tant que ces moyens d'action ne vont pas à l'encontre du message de l'Écriture. Et là, dans le domaine de la foi, nous sommes extrêmement rigides. Et nous avons trop souvent un esprit de jugement vis-à-vis d'églises, de missions, de frères, d'amis, de voisins, qui n'agissent pas selon notre expérience. Alors que peut-être demain, nous serons appelés par Dieu à agir comme ils agissent aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas chaud? C'est une question très pratique. Est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir un peu? Nous sommes enfermés et je crois qu'on est problématique. Il faudrait ouvrir à quelque part. Est-ce que vous suivez? C'est dur le dimanche après-midi. Ça va? Vous suivez bien? Oui? On peut encore un peu continuer? Je veux bien m'arrêter. Dites-moi, hein? Ça va? Alors on fait encore un point et je résume la fin. Troisième doigt, l'accent est mis sur Dieu et non sur le mode d'action de la foi. Imaginez que David ait gardé l'armure de Saül. Il y aurait eu de grandes chances pour que l'accent soit mis sur l'armure que portait David. Et le moyen d'action serait devenu un écran empêchant la gloire de Dieu de se manifester. Et ce qui est beau dans 1 Samuel 17, c'est que David prend soin de ne pas mettre l'accent sur les armes. Vous avez remarqué comme il les a choisies soigneusement. C'est important, les armes. Mais il prend soin ensuite de ne pas mettre l'accent sur les armes, mais sur Dieu. Regardez, verset 45. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi avec ma fronde. Non, pas du tout. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Ou encore, verset 47, toute cette multitude sera axée ni par l'épée, ni par la lance, ni par la fronde, aurait-il pu dire, que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Verset 50 encore. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Et il le dit, n'est-ce pas, pour souligner que c'est avec des objets ridicules, n'est-ce pas, qu'il fut plus fort que le Philistin avec toute son armada, avec toute sa logistique, comme nous allons le voir dans un instant. La source de la victoire ne sera ni dans la lance, ni dans l'épée, ni dans le caillou ou la fronde, ni même dans l'adresse du lanceur. Elle sera en Dieu. Voilà ce qu'il souligne. Et c'est vrai que le Saint-Esprit a voulu, semble-t-il, souligner la miniature et la faiblesse de l'arme utilisée pour braquer les projecteurs sur le grand vainqueur. Vous savez que c'est un des grands thèmes du livre des Juges, par exemple. Je n'entre pas dans les détails. Et en agissant ainsi, David affirmait plusieurs grandes vérités présentes tout au long des Écritures. Et ça, ce sont des principes. Premièrement, Dieu n'est pas limité par nos limitations. Dieu n'est pas limité par nos limitations. C'est Hudson Taylor qui disait ceci. Tous les géants de Dieu ont été de faibles hommes qui ont fait de grandes choses pour Dieu parce qu'ils comptaient sur la présence de Dieu en eux. Ils étaient conscients de leur fragilité. On les appelait des géants. En général, ils disaient, c'est pas vrai. Et je pense à ce qu'a dit un jour Hudson Taylor. On l'a présenté comme l'illustre Hudson Taylor. Et il a dit non, en prenant la parole, je suis l'humble serviteur d'un illustre maître. Dieu n'est pas limité par nos limitations. Ce qui limite Dieu, c'est notre orgueil, notre péché et notre incrédulité. Je le citais l'an dernier à l'Élysée, lorsque Dieu veut faire un petit miracle, il nous place dans une situation difficile. Quand il veut faire un grand miracle, il nous place dans une situation impossible. Dieu n'est pas limité par nos limitations. Deuxièmement, c'est encore un principe des Écritures, toute la gloire doit revenir à Dieu seul. Vous connaissez ce tri qui a été effectué dans l'armée, au sein de l'armée de Gédéon. Pour aboutir, après que des dizaines de milliers d'hommes aient quitté l'armée comme une vaste hémorragie, n'est-ce pas, il n'en est resté que 300. Et Dieu a dit clairement à Gédéon que tant qu'ils étaient trop nombreux, ils risquaient de lui chipper sa gloire. Et que c'était à cause de cela qu'il fallait qu'il y ait le nombre le plus restreint possible et que ce nombre ait pour arme des instruments absolument ridicules et pourtant étrangement efficaces dans la nuit. C'était des armes stratégiques, hein, remarquables. Dieu avait donné là un truc fantastique et je sais pour l'avoir lu que l'histoire de Gédéon s'est répétée depuis, n'est-ce pas ? Et que certaines batailles ont été remportées beaucoup plus tard dans l'histoire moderne, même si je ne me trompe, d'Israël, en utilisant dans certains cas exactement les mêmes moyens. Dans la nuit. Troisième remarque, Dieu veut nous enseigner que le vrai combat se situe en réalité au niveau céleste. C'est là-haut que se gagnent les batailles. Dieu tient en main leur issue. Dans le fond, David devait reconnaître que sa fronde n'était qu'un accessoire. Certes, un accessoire bien utile, mais ce n'était qu'un accessoire. Les vraies ressources étaient en Dieu. C'était de Dieu que David devait dépendre et non du mode d'action de la foi. Les vrais moyens étaient là-haut. Et ça, c'est une règle dans les Écritures. C'est un principe dans les Écritures. De manière à ce que nous développions notre vie de prière, notre dépendance de Dieu, notre regard sur lui, notre confiance en lui. C'est la verge de Dieu dans la main de Moïse, dans la bataille contre les Amalécites. Hein? On se battait sur le champ de bataille. Et pourtant, il suffisait qu'une main se baisse, ou que deux mains se baissent sur la montagne, pour que malgré toute leur dextérité, malgré tout leur talent de soldat, les hommes qui étaient dirigés par Josué perdent. N'est-ce pas ? Comme si Dieu voulait leur dire, vous voyez, vous avez beau être bien équipés, et vous avez raison, entraînez-vous bien, faites bien votre service militaire, faites vos classes, allez-y. Mais, finalement, en dernier ressort, ça dépend quand même de moi. Les vraies armes doivent être spirituelles. Il y a tant d'autres exemples, le javelot de la foi, Josué chapitre 8. Et puis dans le psaume 20, versets 8 et 9, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là luttent sur leurs chevaux, mais nous nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et nous restons debout. » Et je pense à ce que ce serviteur de Dieu, traversant une période difficile de sa vie, avait écrit à un ami. « Le Seigneur a besoin de nous montrer parfois non seulement la puissance de l'adversaire, mais aussi la faiblesse de nos cœurs. Les batailles ne sont pas gagnées par la force, par les actions d'éclat, mais par la faiblesse totalement faible qui refuse de faire quoi que ce soit pour elle-même, mais se confie en la fidélité de Dieu, même quand cette confiance semble folie. Et j'aimerais ici, en terminant cette partie, puis je résumerai le reste rapidement, faire deux remarques. Elles transparaissent de ce que j'ai dit, mais j'aimerais les souligner. La première remarque, est-ce que vous avez remarqué l'équilibre dans la foi de David ? D'une part, il fait un choix très très soigneux de l'arme, et d'autre part, ensuite, il prend soin de ne pas la mettre en avant. Fait les deux. Alors que notre tendance à nous, c'est quoi ? Ou bien, nous sommes tentés de négligence dans le choix des armes, des moyens, des méthodes. Nous disons, je compte sur toi. Et nous n'utilisons pas toutes nos facultés, nous ne sommes pas soigneux. Nous avons une spiritualité désincarnée, nous manquons de réalisme, nous n'avons pas de stratégie, nous avons des buts imprécis. Ou bien alors, nous avons tendance à mettre en avant l'argent, les méthodes, l'organisation, la publicité, le système, la stratégie, l'éloquence, les techniques employées, les qualifications, la renommée, le nom de l'orateur invité, l'étiquette de l'église, le prestige et que sais-je encore. Et vous savez, nous travaillons en ce moment, je travaille avec un bureau pour préparer cette campagne de Billy Graham à Paris en province l'an prochain, et nous avons été confrontés avec cette question de l'équilibre. À savoir de ne pas mettre en avant l'homme, Billy Graham, l'organisation, mais de partir déjà sur de bonnes bases qui soient spirituelles, qui soient conformes aux Écritures, en étant centrées sur la prière. Et c'est pas évident. Parce que c'est tentant simplement de dire, hein, on a l'homme, donc on a le succès. Nous exaltons si facilement l'organisation. Et en cela, nous copions le monde. Ma deuxième remarque, c'est que le moyen d'action peut même devenir un sérieux obstacle, une entrave à l'action de la foi. Et il y a quelque chose de très comique dans ce texte. Regardez au verset 41. Quand je vous dis que la parole de Dieu est inspirée dans ses détails, le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Vous voyez un petit peu la grande organisation qui se met en marche, elle se met en branle. Il avait même besoin de quelqu'un pour porter son bouclier. Le poids de sa lance, n'est pas simplement du bout, il était déjà de 100 kilos. C'est-à-dire que ça allait se retourner contre lui. Ça, c'est le monde, n'est-ce pas ? C'est là que nous sommes vainqueurs sur le monde. Et vous savez que c'est ce qui fait la force de l'armée d'Israël. L'armée d'Israël est forte parce qu'elle a un service de renseignement extraordinaire au monde et parce que, secondement, c'est une armée très mobile. Disponible. C'est certainement l'armée la plus mobile du monde. Rapide. Elle a été conçue dans son fonctionnement, dans sa marche en avant, pour pouvoir intervenir vite. Elle a d'ailleurs une troisième grande qualité, c'est que ses chefs sont toujours en avant sur le champ de bataille. Ils ne sont pas à la queue. Ils seront tués. Les généraux en Israël, on les met à la tête et pas derrière. Et c'est ce qui soutient le moral de la troupe. Et là, nous avons quelque chose à apprendre. Regardez le verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement, vous appuyez sur le bouton numéro 32, vous tournez la manivelle numéro 40, c'est ça? Et puis peu à peu, dans un grincement effroyable, le robot se met en mouvement. N'est-ce pas, c'est ça? Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, regardez un petit peu, mais l'art du Saint-Esprit. L'art du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit excelle dans l'exercice de ses dons pour nous communiquer les Écritures. Regardez ça. Vous avez le Philistin là en mouvement, puis vous avez David qui court sur le champ de bataille. On pourrait même, dans le ton, le laisser passer. Hein? Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Faites ça avec les enfants. Mais c'est ça ce que Dieu a voulu nous dire. Et parfois, parce que nous voulons ressembler au monde, ben nous sommes comme le Philistin. N'est-ce pas ? David n'est pas prisonnier de son moyen d'action et de son système. Nous devons être maîtres et non serviteurs ou esclaves des moyens d'action. Nous devons pouvoir les diriger d'une main ferme sans être dirigés par eux. L'organisation peut étouffer la spiritualité et entraver l'action de notre Dieu. Je lis simplement parce que nous voulons vous donner du repos. Alors je résume simplement les deux derniers doigts. Le quatrième doigt, c'est le précieux alliage de l'action de la foi. Le précieux alliage de l'action de la foi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans ce texte d'action super miraculeuse ou hyper extraordinaire. J'ai essayé de le dire hier soir, si vous vous en souvenez. Le moyen utilisé par David était banal. Et il y avait sans doute des centaines d'autres hommes dans cette armée d'Israël qui avaient les mêmes talents que David. Et ils avaient 40, ça faisait 40 jours qu'ils attendaient. C'est-à-dire que l'un avait très bien eu le temps, n'est-ce pas, aurait pu aller jusque chez lui pour chercher sa fronde. Et personne n'y avait pensé. D'ailleurs, il y a un texte intéressant, 1 Chronique 12, 1 et 2, dans l'armée de David lorsqu'il était fugitif, c'est-à-dire un peu plus tard. Mais dans ces années-là, il y avait des vaillants hommes qui lançaient des pierres de la main droite et de la main gauche. Et peut-être que certains des vaillants hommes de David qu'on retrouve à ses côtés quelques années plus tard étaient sur le champ de bataille à cette époque. Et ils étaient capables de viser aussi bien de la main droite que de la main gauche. Mais comme nous l'avons dit hier, l'incrédulité est paralysante. Mais dans sa foi, David est libre de toute panique. Dieu peut se servir de ses facultés pour lui donner l'adresse, l'idée, puis l'adresse et l'intelligence. Et l'action de la foi, c'est souvent une association d'extraordinaire et d'ordinaire. Souvent, dans nos vies, la solution de Dieu aux problèmes géants qui nous préoccupent est beaucoup plus simple et proche que nous ne le pensons. Très souvent. Là où parfois, dans notre vie de prière, face à des énigmes, à des situations d'impossibilité, nous crions au Seigneur en lui demandant des actes miraculeux, nous passons à côté de solutions toutes simples. Simplement parce que nous sommes trop concentrés par une idée de délivrance. N'est-ce pas ? Nous pensons que ça doit être absolument miraculeux, que c'est tellement impossible qu'il faut que Dieu intervienne d'une manière tout à fait surnaturelle. Et nous passons à côté d'une solution toute simple et toute concrète que Dieu aimerait tellement nous montrer. Je pense à un article lu récemment. C'était pendant une inondation, un certain Dupont qui était assis sur le toit de sa maison. Et il avait déjà de l'eau jusqu'à la cheville quand arrive un canoë. « Je vais vous évacuer !» lui crie le sauveteur. « Non, merci !» répond Dupont. « J'ai confiance en Dieu, il me sauvera !» Alors l'eau lui monte jusqu'à la ceinture quand passe une vedette. « Je vais vous évacuer !» lui crie le sauveteur. « Non, merci ! J'ai confiance en Dieu, il me sauvera !» L'eau monte toujours, elle atteint son menton quand il aperçoit un hélicoptère. « Attrapez cette corde !» lui crie le sauveteur. « Je vais vous hisser !»« Non, merci !» répond Dupont. « J'ai confiance en Dieu, il me sauvera !» Après avoir tenté de surnager plusieurs heures, nous quittons le terrain biblique, là, Dupont se noie, il se présente au paradis, s'attendant à une récompense, et commence toutefois par reprocher au Créateur de ne pas l'avoir secouru. « Moi !» s'exclame le Seigneur, « moi qui t'ai envoyé deux bateaux et un hélicoptère !» Sélection du Reader Digest, ça sert à quelque chose, hein. Mais est-ce que c'est parce qu'il nous arrive ? N'est-ce pas ? Vous ne trouvez pas que souvent, avec le recul, on se rend compte que la solution était tout près de notre nez ? Mais on cherchait dans l'extraordinaire. Et alors là, vous en avez des exemples dans les Écritures. C'est bourré d'exemples. Josué 5, verset 12. Le Dieu qui avait fourni la manne dans le désert, où l'agriculture était impossible, qui fournit maintenant le pain par le travail des gens. Et je suppose qu'il y a eu des réunions de prière à la sortie du désert. Seigneur, s'il te plaît, fais descendre la manne. On en a ras-le-bol, mais on aimerait quand même que le miracle ait lieu. N'est-ce pas ? Et Dieu qui a dit non, maintenant vous allez au jardin et vous bêchez. Dieu ne fait jamais de miracles inutiles et inadaptés. Ou encore Jean 11, Jésus qui est devant le tombeau de Lazare, qui est capable de ressusciter Lazare, mais auparavant il dit roulez la pierre. Je suppose qu'il y a des gens qui ont dû se dire, mais franchement, si c'est le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il attend donc pour parler à la pierre pour qu'elle s'en aille? Non, Jésus a dit, roulez la pierre. Et une fois que Jésus est ressuscité, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas permis qu'il se relève, qu'il ouvre les bras en l'air en disant, je vous ai compris? Pas du tout. Il est resté lié, n'est-ce pas, comme ses bandelettes. Et Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Vous voyez cet alliage de surnaturel et de choses tout à fait ordinaires. C'est ça, finalement, l'action de la foi. Ou acte 12 encore. Ces portes de la prison qui s'ouvrent l'une après l'autre devant Simon-Pierre. Et puis il se retrouve dans la rue, toutes ces lourdes grilles, toutes ces serrures qui ont sauté devant lui, comme ça. Il arrive, et puis il se met à frapper à une porte. Moi, je suppose que Simon-Pierre a dû dire, mais Seigneur, tu peux pas l'ouvrir, cette porte. Et surtout qu'il y avait la marée chaussée, n'est-ce pas, qui risquait gros. Il s'était échappé de prison. Alors j'imagine, n'est-ce pas, qu'il se met à prier en disant, Seigneur, s'il te plaît, César, ouvre-toi. Non, il a fallu qu'une servante vienne ouvrir la porte. Et il était plein de bon sens, Simon-Pierre. C'est là l'équilibre de la foi chez ces hommes de Dieu. Ensuite, il leur a parlé en catimini, hein. Il leur a juste fait savoir en douce où il allait, et puis hop, il est parti. Nous, oh, chers amis, il faut qu'on fasse une grande réunion. Appelez tout le monde. Hein? Je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Hein? Puis la marée chaussée vient à la réunion. C'est pas vrai? Notre manque de bon sens dans notre foi. Un miracle extraordinaire n'est pas nécessaire là où la sagesse suffit. Et c'est Hudson Taylor qui, dans son apprentissage de l'action de la foi, était amené à écrire ce soir. L'emploi des moyens mis à notre disposition ne doit pas diminuer notre foi en Dieu. Et notre foi en Dieu ne doit pas nous empêcher d'user de tous les moyens qu'il nous a donnés pour l'accomplissement de ses propres desseins. Quand je soigne des malades, je ne néglige jamais de demander à Dieu de me diriger, de me bénir dans l'emploi des moyens appropriés. Et je n'oublie pas de le remercier de l'exaucement et de la restauration de la santé. Devant chaque situation de souffrance, ma première réaction, c'est de vouloir être dépendant de Dieu, n'est-ce pas? C'est de lui dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et ensuite, ne pas attendre simplement la réponse comme si ça allait descendre dans le médium que je suis, mais de me renseigner, d'essayer de voir un petit peu quel est le problème qu'a l'enfant ou que j'ai, de voir si je n'ai pas dans ma pharmacie aussi quelque chose, n'est-ce pas? À nouveau, j'utilise le bon sens que Dieu m'a donné. Enfin, le cinquième point, l'action de la foi doit persévérer jusqu'à la victoire. C'est le verset 51. Il courut, il court encore, il court toujours ce jeune David, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Il a été prudent. Imaginez qu'il n'ait été qu'assommé, hein, Philistin. Et vous le voyez, à un moment donné, alors que David est en train de crier Alléluia avec toute l'armée, hein, il arrive par derrière et tic! Ah non, il est allé jusqu'au bout. Il lui a coupé la tête. Le cerveau du problème doit être touché. Les commandes de la situation doivent être neutralisées. Ça, c'est ce que j'appelle le travail de suite. Et d'ailleurs, ça continue, hein. À partir du verset 52, déjà, oui, c'est ça, les hommes d'Israël Juda poussèrent des cris, puis poursuivent. Ça, c'est le travail de suite. Prolonger l'acte de foi de David. Alors, il y a quantité de textes sur ce plan, mais je vous en laisse un seul. Hébreux 6, 11 à 15. La foi s'empare des promesses, la persévérance nous en assure la possession. Et toute l'histoire d'Abraham, c'est la persévérance, l'attente patiente de l'accomplissement des promesses de notre Dieu. C'est Andrew Murray qui a dit ceci, quand il s'agit de commerce, des études de la guerre, la meilleure défense est dans l'attaque, Rester sur place, c'est reculer. Réduire l'effort, c'est perdre du terrain. Ralentir la marche avant d'avoir atteint le but, c'est perdre sa cause. Alors simplement, un mot de conclusion. Je vous ai donné une direction que vous pourrez suivre parce qu'il y a beaucoup de choses là dans les Écritures à ce sujet. Mais j'aimerais quand même terminer par là. Pourquoi la foi est-elle capable de persévérer jusqu'à la victoire finale? Pourquoi la foi est-elle capable de tenir le coup dans l'échec apparent, dans les grandes souffrances, sans voir même la réalisation de certaines promesses, comme les héros de la foi des Hébreux? Tout simplement parce que la foi vit dans la perspective. Et on ne peut que terminer par là. Hébreux 11, verset 10, n'est-ce pas? Hébreux 11, verset 10. Ce merveilleux verset. Il attendait, Abraham, la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ou un peu plus loin, toujours dans Hébreux 11, vous avez un tout petit peu plus loin encore, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre, résidents temporaires. Hein? Ce qui parle ainsi montre qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et chapitre 12, dans le verset 2 et suivant, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Jésus-Christ est le guide de la foi, et il nous a dit, il y a plusieurs manières de traduire, mais celle-ci est de toute manière valable, il nous a dit qu'il a pu, dans son amour pour nous, aller jusqu'au bout, boire la coupe jusqu'à la vie, parce qu'il vivait lui aussi dans la perspective céleste. Il vivait en vue de la joie qui lui était réservée. La joie du ciel, du trône de gloire, du retour vers le Père pour un ministère fructueux dans les lieux célestes. La joie du salut des pécheurs introduits au ciel pour lesquels il allait préparer une demeure royale. La joie de pouvoir intercéder pour eux auprès du trône de Dieu, de présenter son sang au Père. La joie de la rencontre à venir de l'épouse et de l'époux. Tout cela l'a aidé à endurer l'opposition. Et tous les hommes de Dieu qui se sont succédés au fil de l'histoire ont été soutenus dans le combat de la foi parce qu'ils vivaient dans cette perspective du retour de Jésus. Il y a toujours cette association entre foi et espérance, n'est-ce pas? On a vu foi et amour dans l'introduction. Dans la conclusion, on voit l'association entre foi et espérance. La conclusion d'un Corinthiens 13. La foi, l'amour, l'espérance. C'est triplé. On a parlé de jumeaux, on parle de triplé. L'exemple de Paul, Philippiens 3, 20 à 4, verset 1. Hein, nous attendons du ciel, ce Seigneur de gloire, celui qui va transformer le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. La foi vit dans l'espérance, dans la perspective du retour de Christ, et de lui être rendu semblable en le voyant face à face. Sur cette terre, nous sommes les uns et les autres à l'école de la foi, en vue d'une manifestation de foi parfaite dans l'au-delà, où nos rapports seront des rapports de confiance la plus absolue dans ce face-à-face permanent et dans toute cette œuvre que nous aurons à entreprendre dans l'éternité.